CFM à Villefranche, 90.2. 90.2.
Qu'est-ce qu'on déguste ? Vous est présenté par Vinovali, union des caves de Fronton, de Técou, des Côtes d'Olt et des vignerons de Rabastens. Vinovali, les vignerons d'Ovalie.
La flash détente.
Et qu'est-ce qu'on déguste ? Bonjour. On est tous flash détendus, hein. Petit clin d'œil à la dernière émission consacrée à Xavier Briouat, directeur de la cave des Côtes d'Olt et de la cave de Fronton, qui nous a expliqué ce qu'était la flash détente. Et depuis, je dois dire qu'on est tous flash détendus.
On est flash détendus.
Bonjour Pascal Olivier.
Salut à tous.
Comment ça va ?
Ça va super bien.
Aujourd'hui, tu nous parleras.
Aujourd'hui, oh bon, on va parler. On va faire une petite recette. Il y a une terrine de poireaux et queue de bœuf aux herbes. Alors, je vais vous expliquer pourquoi une terrine de poireaux.
Oui.
Bah, la poireau, c'est l'emblème du pays de Galles.
Ah, et demain.
Et on fait la queue de bœuf, c'est les poireaux. Donc, on va faire une terrine de queue de bœuf et de poireaux.
Un jour que tu m'aimes. Non ?
C'est pas, de quoi ?
France Gall.
Oh. Ah ! Je croyais que c'était les sucettes à l'anime.
Aussi.
Mais...
C'est ce qu'on va essayer de leur faire demain.
Je crois que c'était Françoise Hardy qui chantait ça en plus.
Non, au départ, c'est France Gall et Françoise Hardy.
C'est un morceau de Gainsbourg pour l'Eurovision. Et France Gall avait gagné le Grand Prix de l'Eurovision. Je crois qu'elle a mis très longtemps avant de comprendre les paroles de la chanson.
Non, attends, oui, non, mais lui, il parle de l'autre, de
celle que tu
la déclaration d'amour. Mais France Gall l'a chantée,
attention,
j'en suis sûr. Oh. Bonjour Christophe.
Bonsoir à tous.
Ça va ou quoi ?
Eh bien oui, ça va. Je vous amène un gros bouquin. C'est la vie d'Edgar Allan Poe.
Oh oui.
C'est costaud. Et on va parler aussi.
Il a bien vécu.
Ah oui, là.
Non, il a très mal vécu, mais.
Bon, il a vécu longtemps.
Non ? Ouais, ce pauvre Edgar Poe, il a très mal vécu.
Ouais. Oui, très très mal vécu.
Et on va parler du 4e anniversaire de l'excellent magazine Tsugi.
Mais t'en as déjà parlé hier soir.
Mais oui, mais je recycle, monsieur.
Tu recycles, hein.
Bon.
Je t'ai écouté hier soir.
Ah, mince.
Dans l'émission Grow Up. Rediffusion.
Mardi
21h. Nous avons comme invité aujourd'hui Pierre Bogineau, qui est le grand maître de la confrérie des vins des coteaux du Quercy. Pierre Bogineau, bonjour.
Bonjour.
Ou dois-je dire grand maître ?
Non, pas du tout. Restons simples.
Voilà.
Alors, l'idée d'aujourd'hui, c'est quoi ? L'idée, c'est
d'inviter. Est-ce qu'on peut vous voyer ?
Oh. L'idée. Vaut mieux me tutoyer, c'est préférable.
L'idée, c'est d'inviter Pierre, d'abord pour qu'il nous emmène des bouteilles des coteaux du Quercy.
Oui.
Ah, voilà. Ah, et donc, ouais, il n'est pas venu les mains vides. Il nous a emmené un rouge et un rosé de chez.
La cave coopérative des coteaux du Quercy.
Les
vignerons du Quercy, à Montpezat de Quercy.
Et ça s'appelle ?
Le Bessé de Boissy.
Voilà, merci.
Premier prix 2010 quand même, au concours des vins du Sud-Ouest à Castelsarrasin.
Donc on va commencer par un petit rosé, et puis on glissera doucement vers le rouge en écoutant les aventures de la confrérie des vins des coteaux du Quercy dans le Caucase. Parce que c'est de ça qu'il s'agit. Ils reviennent d'un grand voyage là-bas dans les plaines.
Dans
les steppes, on les imagine avec leurs grandes capes bleues, tu sais, sur des chevaux.
Avec les plumes jaunes, volant, claquant au vent.
Voilà, et puis des rapaces qui vont chasser aux rapaces, quoi.
Si c'est ça.
Et du coup, on va aussi un petit peu parler de à quoi ça sert, finalement, une confrérie, et on le fera avec vous, mon cher Pierre Bogineau, mais aussi avec d'autres confréries, parce que je me suis dit que ce serait rigolo de passer un coup de fil à d'autres grands maîtres pour voir ce que des grands maîtres qui se rencontrent se racontent. Hein,
quand un grand maître rencontre un autre grand maître.
Donc, quand le grand maître de la confrérie des coteaux du Quercy rencontrera le grand maître de la confrérie de la poule farcie, à savoir Hubert Nonorg, mais je crois que vous vous rencontrez régulièrement.
Oui,
hein, avec lui.
Très souvent, puisque c'est même le parrain de notre confrérie.
Voilà, donc on lui passera un coup de fil.
Le Brulois aussi, il y en a eu.
Dans un moment.
Oui, il y a la noisette aussi.
On passera un coup de fil à la confrérie de l'Andouillette au Léon. L'Andouillette au Léon. Voilà, parce qu'il y a plein de confréries de l'Andouillette, mais là, c'est l'Andouillette au Léon. Léon, donc
ils sont en Loire, ils sont du côté du Léon,
Angers.
C'est ça. Oui. C'est Alain Bastin qui sera avec nous au téléphone, qui en est le grand maître. Et puis on passera aussi un coup de fil à Philippe Jouvin, lui qui est grand maître de la confrérie du petit vin blanc de Nogent.
Vin blanc de Nogent.
Hein, c'est rigolo ça.
Tu me l'aurais dit, on avait aussi.
Tu me l'aurais dit.
Il y avait la confrérie des amateurs des pieds de porc. à la Sainte Ménéhoulde.
Ah, mais ça, tu nous en parleras aussi des pieds de porc, puisque hier soir, nous avons dégusté une bouillabaisse de pieds de porc grâce à Thierry Boisse de la cantine de Proust. Et vraiment, c'était chapeau, ouais, un petit clin d'œil à lui, ouais. Et puis aussi à Gilbert qui faisait partie de la grande tablée. Nous étions une bonne vingtaine hier soir.
23.
Et ça lui a beaucoup plu à Gilbert, et du coup, il nous a emmené de superbes chocolats qu'on va déguster pendant cette émission.
Vous n'en aurez pas, voilà. Et voilà. Et Patrick, comme Albert, tu n'en auras pas non plus.
De la chocolaterie artisanale de Lara. Voilà. C'est dans la Haute-Garonne. Voilà, on commence en musique, si vous voulez bien, avec des messieurs dames qui sont sur la scène des docks à Cahors pour. Bien,
leur retour
sur scène, c'est ces messieurs de chez Zebda.
On vivait y a pas si longtemps comme des Indiens
dans des cases que nos parents construisent de leurs mains.
Et si les robinets d'eau n'étaient pas trop loin,
pouvait dire que rien n'était à portée de main.
Même sous un toit, tu dormais à la belle étoile. T'avais froid mais mal avec une couverture sociale.
Si t'avais pas de chaussettes qui te servent de gars,
chanter des slogans.
On vivait y'a pas si longtemps dans des baraques en bois.
Je crois bien que c'était pas ma cabane au Canada.
C'était un tangero, la mairie la faisait gratis.
Pour les toilettes, on allait derrière un champ de maïs.
En échange, on avait intérêt à être aimable, sinon la maison punie en petit tas de sable.
Et celui qui était pas content à l'époque,
aussi sec et sans pitié, on lui coupait les allons.
Il y avait du soleil et du soleil,
il y en avait dans ma chemise.
Il y en avait à l'époque du soleil, à la toque,
et la vie n'était pas grise.
Oh, on vivait y a pas si longtemps dans des cabanes en fer.
Et si c'était pas le paradis, c'était pas l'enfer.
On en a passé des hivers lorsqu'un beau matin,
déchirer l'intestin.
On s'asseyait plus,
et puis y'avait pas de chaise.
De toute façon, à table on était plus de 16.
Ou peut-être 17, on était rachitique car
on dormait tous au fond des
tout petits placards.
Y'avait du soleil et du soleil
à la toque.
Y'en avait dans ma chemise.
Y'en avait à l'époque du soleil à la toque,
et la vie n'était pas grise.
Corse. Là, j'en ai bien essayé plus de 50 rosés.
Chaque midi, là, un nouveau rosé.
Et je pense que, à part quelques-uns qui sont. Là, je vais en acheter du Reuilly, là, la semaine prochaine. Parce que je m'en vais vers là-bas, donc je vais en acheter. Il paraît qu'il est bien, celui-là. Mais à part quelques-uns des rosés de Provence, tu vois, le reste, c'est pas mieux que nous. Hein.
C'est pas votre maison, pas votre maison, non, 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 pas votre maison. Mais nous on avait déjà
tombé la cloison.
Il y avait du soleil et du soleil
à la toque.
Il y en avait dans ma chemise.
Il y en avait à l'époque du soleil à la toque.
Et la vie n'était pas grise.
Il y avait du soleil et du soleil
à la toque.
Il y en avait dans ma chemise.
Il y en avait à l'époque du soleil.
Voilà, les Zebda qui se reforment, qui remontent sur scène. Deux concerts exceptionnels à Cahors, au Doc, ce week-end, ce soir et demain soir. Il y a ceux qui y seront et puis il y a ceux qui y seront pas. Alors, dans Qu'est-ce qu'on déguste, ce soir, nous recevons Pierre Bogineau, grand maître de la confrérie des vins des Coteaux du Quercy, qui revient des grandes steppes de l'Est. Alors avant de parler de ce voyage, Pierre Bogineau, un petit rappel sur la confrérie des vins des Coteaux du Quercy et sur le pourquoi de son existence en fait. Comment est née cette confrérie ?
Ben, je crois que cette confrérie, elle est née par la volonté des viticulteurs des vins du Quercy Et ces viticulteurs, un jour, disons, c'était les années en 1984, ont décidé de créer une confrérie.
Alors donc, dans le but de faire de la promo.
Oui, je crois que si vous voulez, dans la mesure où on a un terroir, on a un produit. Ben, et en France, il y a, je crois, à l'heure actuelle, plus de 800 confréries qui représentent à la fois les terroirs et les produits. Donc, nous, dans la mesure où on avait un vin, c'est-à-dire les vins des Coteaux du Quercy, il était, je crois, tout à fait naturel que nous ayons une confrérie. Donc, cette confrérie est née. Il y avait à l'époque une douzaine de membres fondateurs.
Tous viticulteurs?
Ah non, pas du tout. Il y avait à la fois les viticulteurs.
Vous n'êtes pas viticulteur, vous?
C'est-à-dire, non, moi j'étais pas viticulteur, mais j'étais propriétaire de vignes. C'était mon gendre qui était viticulteur. Donc vous voyez, j'étais quand même dans la famille viticole. J'ai connu la vigne depuis mon plus jeune âge à Montpezat de Quercy. Et donc, si vous voulez, j'ai été désigné comme grand maître de cette confrérie. Et donc, voilà, nous avons commencé à progresser, nous avons commencé à faire des chapitres. Et à l'heure actuelle, nous avons plus de 1000 membres de notre confrérie. Donc, vous-même, vous faites partie. Et donc, si vous voulez, nous sommes dans plus de 1000. Nous faisons, en principe, 4 ou 5 chapitres par an. Le grand chapitre, nous sommes une des seules confréries, je crois, peut-être pas en France, mais presque, qui honore la fête de la femme, c'est-à-dire au mois de mars, hein. Et car nous pensons que ce jour-là, il est bon d'introniser que des dames, puisque après tout, elles font partie de la grande famille du Quercy, de la grande famille, je veux dire, au niveau national, au niveau dans le monde viticole. Donc, il était tout à fait normal qu'on leur consacre une journée. Nous avons aussi la Saint-Vincent, la fête du vin, les vendanges de l'ancienne à Bruniquel, voyez. Et ensuite, nous nous déplaçons dans de nombreuses régions où nous avons quelques compagnons des vins du Quercy qui vont représenter le Quercy au grand chapitre d'autres confréries.
Et voilà, c'est ça, vous faites des crossovers, comme on dirait aujourd'hui dans le cinéma, hein, vous croisez la confrérie de la poule farcie avec la confrérie des vins des Coteaux. Ouais, ça fait des grands mix comme
et
ça.
Et on voit un goût après.
Et voilà,
ça.
Et le but du jeu.
Alors, si vous voulez, il y a le but du jeu. Le but du jeu, c'est d'abord de se rencontrer parce que tous ces chapitres-là, se passent dans nos tenues respectives. Et lorsqu'on se.
Les tenues des confréries, c'est quand même
les grandes tenues, si vous voulez. Dans nos grandes tenues, nous avons ensuite chacun à sa variété. Et si vous voulez, le fait de se rencontrer, nous allons d'un chapitre à l'autre et nous avons la possibilité, ce fait, de connaître les produits des différentes confréries. Parce que, en principe, dans chaque chapitre, les confréries mettent en avant leurs produits. Ça va des tasses d'andouillettes de Menetou-sur-Cher, d'andouillettes à la ficelle, ça peut aller aux madeleines de Commercy, comme
les chiperons
de Saint-Jean-de-Luz.
Il y en a 800, t'imagines?
L'Aioli.
800 confréries.
Voilà, on est au pays de la bouffe, c'est normal.
Voilà, hein. Donc si vous voulez, chacune représente et si vous voulez, sublime le produit pour lequel elle représente chaque confrérie.
Mais c'est extraordinaire parce que je vois bien l'intérêt pour des viticulteurs d'avoir une sorte d'outils marketing comme ça qui est la confrérie, mais des fois moi ce qui m'amuse finalement c'est que les gens, les membres de la confrérie se prennent vraiment au jeu et que c'est le produit quoi qui devient le produit, la rencontre, la bonne bouffe qui devient plus important que tout le reste quoi.
C'est-à-dire tout est important, vous savez, dans la vie actuelle et dans le monde que nous traversons. Je crois que avoir une certaine convivialité, une certaine approche de l'autre, et je crois que c'est important. Et chacun, à travers ses produits, à travers ses tenues, à travers sa région, je crois que lorsqu'on fait rencontrer des régions, lorsqu'on fait rencontrer des produits, je crois qu'on est peut-être un peu au top de la convivialité et puis de ce qu'il faut faire pour être ensemble.
Alors, trinquons si vous voulez bien.
Mais il faut trinquer au vin du Quercy.
Oui, puisque en plus on trinque avec un rosé du Quercy.
Rosé.
Alors, le BC de Boissy, qui est un des produits que nous avait présenté le directeur de la cave des vins des Coteaux de Quercy, son nom m'échappe. Mais
Monsieur Jean-Francis.
Et alors nous avons levé nos verres et nous a rejoint par téléphone à ce moment-là Hubert Nonorgue, qui est Alors, grand ordonnateur ou grand... Comment c'est quoi?
C'est aussi le grand maître de la confrérie. Mais je crois que notre ami Hubert Lenorgue est un personnage spécial dans le monde du confrérie parce qu'il appartient à peu près à une cinquantaine de confréries. Et je crois qu'il a... Moi, j'appartiens à une dizaine, mais lui, si vous voulez, c'est... Je dirais que c'est presque notre grand prêtre des confréries de la région.
Hubert Lenorgue, bonjour.
Oui, il y a beaucoup de...
J'ai presque envie de dire votre majesté.
Votre excellence.
Votre excellence.
Grand maître, ça suffit.
Appelez-moi maître, appelez-moi maître.
Alors, c'est vrai que grand maître, vous faites partie de combien de confréries donc? Alors.
Oh, une 60-70. Bon.
60-70.
La santé.
Mais vous n'avez pas, vous pouvez pas vous occuper de toutes ou vous rendre au chapitre de toutes.
Des confréries qui m'ont honoré, quoi, c'est tout.
Oui, vous n'allez pas à tous les chapitres.
D'accord, oui. Hein? Alors, j'entends Pierre Bougineau. Bon, ben, évidemment, je suis leur parrain. J'ai d'ailleurs le diplôme de compagnon numéro 1. Alors, lui, il est spécial parce que je l'ai dans ma cave, c'est tout. Personne ne le voit.
Alors, dites-moi, vous en avez pas marre de manger de la poule farcie?
Non. La poule farcie, c'est un prétexte de réunir beaucoup d'amitié. Évidemment, la gastronomie est en première ligne, mais souvent, enfin, jusqu'à maintenant, les gens sont contents de manger la poule farcie que nous faisons pour nos chapitres. On doit être au 57e chapitre et puis 23 ans d'existence.
Ouais. Vous aimez bien vous travestir aussi parce que...
Ah, j'ai horreur de ça.
Il faut mettre la robe quand même, non,
au chapitre. J'ai horreur de ça, les confréries. Ce n'est pas une rencontre pour la bouffe, c'est surtout l'amitié. Et puis après, c'est le fait de se distinguer par une tenue, comme, je ne sais pas, Monseigneur l'évêque qui est membre de notre confrérie, comme un avocat ou tout ça. Mais autrement, j'ai horreur qu'on dise que c'est un carnaval.
Enfin, vous dites, ouais, vous dites, c'est pas pour la bouffe, mais enfin, quand même, il y a quand même pas de confrérie, je sais pas moi, de l'enrobé bitumeux, ou des trucs comme ça, c'est quand même que
c'est
ce qui se voit.
Il dit que c'est pour la bouffe.
Je m'excuse, il y a une confrérie du cunaire, le cunaire du Cidobre, c'est une confrérie du granit.
C'est un peu mortel, morbide.
Là, c'est un peu, d'accord.
Au tout début, quand vous avez créé la confrérie de la poule farcie, Hubert Lenorgue, c'était quoi l'idée?
L'idée, d'abord, c'est parce que, bon, malheureusement, il est disparu. Il y avait un chef de cuisine à Saint-Antonin-Nobleval qui servait tous les jours, pratiquement, la poule farcie. Voilà. Et il avait un certain talent à servir ce plat, alors qu'il n'était pas d'origine du Tarn-et-Garonne. Et alors, par amitié, d'ailleurs, les vins du Quercy se sont associés avant de créer leur confrérie. Se sont associés à cette inauguration de la poule farcie.
Mais comment il s'appelait ce chef à
Jean-Claude Farcy.
Et voilà.
Mais c'était avec un Y.
Un farci.
Oui, pas mal.
Il honorait bien son nom.
Il honorait bien son nom.
Il le portait.
Voilà, pourquoi on a fait l'ordre de la poule farcie.
Bon, dites-moi, Hubert Lenorgue, dans toutes les confréries auxquelles vous appartenez, vous n'appartenez pas à celle de l'Andouillette au Layon, par hasard?
Non. On ne monte pas si haut.
Et,
je les connais, oui.
Ouais.
Et d'ailleurs, Jean-Pierre Pernaud, cette semaine, a fait à chaque fin d'information, il a fait paraître une confrérie. Voilà.
Sacré Pernaud, toujours un temps d'avance.
Alors, par exemple, si on veut manger une bonne poule farcie, il est plus à Saint-Antonin, mais si on veut manger une bonne poule farcie aujourd'hui,
on va où?
La meilleure, elle se trouve où?
Chez soi.
Chez vous? Ah ben, on arrive.
On arrive.
Non, on trouve, ça se fait plus régulièrement.
Non, il faut être sérieux. La poule farcie, pour 200 ou 300 personnes chaque fois, on peut pas dire que c'est la poule farcie
maison
de nos grand-mères. Mmh. Elle limite. Voilà.
Mais est-ce que c'est vraiment des poules?
Une poule farcie, une bonne poule farcie, c'est une... ça se fait chez soi.
Mais vous n'avez pas un resto quand même là à nous conseiller pour aller manger une poule farcie?
Malheureusement, on est...
Il y a une place à prendre.
Dans un pays où on le fait pas trop.
Eh ben voilà, il y a une place à prendre.
Dans la poule et pas dans le poulet, parce qu'aujourd'hui, on nous peut nous balancer, au lieu de poule farcie, une poulette. Là, il faut une vieille poule.
Oui, là, il faut une vieille poule.
Ah oui, tu veux de la vieille poule, là.
Réformée, qui ne peut plus pondre.
Une glousse.
Voilà. Merci beaucoup Hubert Nonor d'avoir été avec nous pour évoquer ensemble sur CFM Radio la confrérie de la poule farcie. On vous laisse à vos occupations. Ils sont à Montclar, non, c'est ça? À Moissac.
Ils sont j'appelle l'ordre à poule farcie de Tarn-et-Garonne parce que chaque fois nous nous déplaçons dans un village différent qui veut bien nous accueillir. Voilà.
Et le prochain chapitre, ce sera.
Alors le prochain chapitre sera, oui, c'est vrai que le premier dimanche de décembre, nous faisons toujours un chapitre à Montclar de Quercy, car l'abbé Laurent, qui est le curé depuis 50 ans de Montclar de Quercy, est vice-président de notre confrérie.
Ah, et on peut s'inscrire
Il y a deux vice-présidents, c'est Alain Blanc, qui est un cuisinier de renom, dans la Garonne, et puis... l'abbé Raymond Laurent.
Et on peut s'inscrire, on peut y aller?
Ah oui, vous pouvez.
Génial.
Aller, vous verrez.
Qu'on se le dise, on va s'incruster dans toutes les confréries. Voilà.
Il nous faut les chapeaux, les plumes.
Merci beaucoup, Hubert Nonor. Merci
allez,
à vous.
Au revoir.
You need a real man. Un petit coup de Tsugi?
Un petit coup de Tsugi, alors rapide, c'est le quatrième anniversaire, parce que, ça, on en a déjà parlé hier soir, comme tu l'as fait remarquer. Quatrième anniversaire de ce superbe magazine avec une couverture dépliable où ils rendent honneur au label indépendant. C'est vrai qu'il y a des gens qui osent encore monter et continuer des labels musicaux à l'heure où tout le monde télécharge et plus personne ne vend un disque, donc il faut leur rendre hommage. Il y a un superbe CD dont on va écouter un extrait qui a été réalisé par le Club Cheval. Et oui, le Club Cheval, c'est le nom surréaliste de 4 DJ lillois qui gazent en ce moment sur toute la scène électro. Et là, ils nous ont sorti un petit CD avec une très belle sélection des meilleurs morceaux électro, une espèce d'anthologie avec des petits extraits de Laurent Garnier, de Saint-Germain, etc. Ça, c'est ce qu'on écoute en fond. Donc, et un petit cadeau aussi, il y a 50 logos pour les 50 labels représentés avec des petits autocollants, donc des petits
stickers. Pour le frigo, ça.
Pour le frigo, pour la voiture, vous pouvez en mettre partout. C'est bien sympa. Et bien entendu, le contenu du magazine, toujours au top. Un hommage à DJ Mehdi. DJ Cam qui sort un nouvel album, le second album de Martine, Tsugi Magazine pour 5,95€. Franchement, ça vaut vraiment, vraiment le coup avec le CD. Je vous le conseille vivement.
Bon, et si on mangeait un petit peu de ce pâté là? Non, c'est quoi? C'est saucisse.
La flash détente.
Flash
détente. Est-ce qu'il est flash détendu ce Roger?
Il est bien, il est pas
pas trop gros.
C'est question de gusto.
Eh ben c'est ça, oui. Ah oui, mais c'est bon, ça la partie.
bousquet de viticulteur. Il fait une saucisse à la charcuterie, comme autrefois, mais en grand nombre.
Il est
sur le marché de Cahors le samedi. Oui. Mais vraiment, ça c'est quelque chose. Il passe à peu près, et sur le marché de Cahors, il passe à peu près 7 à 8 cochons. C'est énorme quand même.
Oula.
Il a entre 400 et 600 clients le samedi matin.
Ah oui, on ne peut pas rater son stand.
Non, mais il y a la queue.
Ah ouais, madame, la machine ici avec son foie gras.
Avec son foie gras, ouais.
C'est friton.
Ouais, ouais.
Comment ça s'appelle, madame? Quedal Dias.
Ah oui, la moutagre.
Non, non, c'est pas la moutagre. Non. C'est une vieille dame.
Elle m'a fait ça, non?
Elle fait du foie gras et du friton.
Ah ouais.
La belle indépendante, tous ensemble, en couverture du 45e numéro de Tsugi qui fête son 4e anniversaire et plein de festivités à la capitale ce week-end.
Qu'est-ce qu'on déguste? La suite dans un instant.
CFM à Montauban. Montauban. 101.2. 101.2.
Qu'est-ce qu'on déguste avec Vinovali, cave de Fronton et des Côtes d'Olt? Vinovali, les vignerons d'Ovalie.
Qu'est-ce qu'on déguste? La suite. Alors, si vous avez raté le début, sachez que Georges, notre spécialiste de jazz,
va bien.
Et il n'est pas des nôtres parce que, tout simplement, il est au Club Med, monsieur, en ce moment. Il joue du jazz, vois-tu. Il joue du jazz au Club Med.
Il porte un petit disque de jazz pour le remplacer donc, et pour lui faire hommage.
Voilà, donc Pascal Olivier, lui. Voilà.
Il est là.
Voilà. Gaël, par contre, pas de nouvelles. Il n'est pas excusé, il n'est pas là, pas excusé.
Peut-être il bosse.
Pas bien. Ah, peut-être il travaille. Et qui c'est qui manque encore? Fabien. Il a des vis.
Voilà, il est en maintenance.
Il a des vis et des plaques suite à un petit accident, mais tout va bien.
Non, mais
il faut qu'on lui enlève tout, c'est fait. Il faut que ça cicatrise.
Voilà. Donc il est en maintenance.
Voilà. Mais il va bien aussi.
Voilà, tout le monde va bien.
Moi, tiens le coup.
On est en compagnie de Pierre Bogineau, grand maître de la confrérie des vins des Coteaux du Quercy, qui va nous raconter dans un instant son périple.
Dans le Caucase.
Dans le Grand Nord. Hein, dans les plaines de l'Ukraine, un cosaque démoniaque s'en allait un jour à Saint-Pétersbourg voir sa Petrouchka faire l'amour.
Un cosaque démoniaque.
Allez, on passera un petit coup de fil aussi au grand maître de la confrérie de l'Andouillette au Léon et au grand maître de la confrérie du petit vin blanc de Nogent. Voilà. Hein,
petit vin blanc
pointu, hein, petit vin blanc.
Ah mais ça, quand même.
Ah hein. Le petit non, mais vin blanc.
On les appellera, il nous racontera comment ils ont replanté de la vigne en fait au cœur
de la région parisienne
pour faire le petit vin blanc justement. Et ils font leur petit vin blanc et tout ça. Et
ouais.
Ah, il y en a un, Montmartre.
Ça alors.
Et oui. Alors pendant ce temps, nous mangeons des très bons chocolats. Nous dégustons quelques très bons chocolats de la chocolaterie de Lara, grâce à Gilbert qui a ô combien apprécié bouillabaisse au pied de porc à laquelle il participait hier soir.
Et oui, parce que c'est un gourmand impénitent.
Et c'était une soirée très fermée. Hein, c'était.
Oui, c'était un petit club privé.
Voilà. Donc on déguste ça et puis aussi bien sûr des vins des Coteaux du Quercy, hein, bien évidemment.
Une préfiguration du grand banquet, ça, la bouillabaisse de pied de cochon.
Bientôt le grand banquet, qu'est-ce qu'on déguste? Inscrivez-vous. Tout le monde va me dire, mais où est-ce qu'on s'inscrit?
Non, mais inscrivez-vous.
Si c'est le Guéméville aussi.
Sans doute. Je l'ai pas pris moi.
Enfin, l'andouillette a toutes les sauces dans les confréries.
Ouais.
C'est bon ça.
Bah, je suis pas fan de l'andouillette. Je trouve que c'est un des rares mets que j'ai du mal, quoi. Tu vois,
oui, mais c'est bon. Celle à la ficelle, là, elle est super bonne. Hein.
Ouais.
Ils en font que 7 par cochon, enfin, c'est très compliqué leur affaire.
Moi, je trouve que ça a toujours une sale odeur. Quoi.
Bah, c'est de la tripe. Hein,
mais non, mais moi j'aime les tripes. J'aime les tripes.
Oui, mais là, c'est de la tripe avec de la fraise.
Il y a celle de. Oui, il y a celle-là.
Il faut de la fraise de veau. Or, ça a été interdit après avec l'histoire de la vache folle et tout. Donc,
non, la nouillette à la ficelle, elle est faite à partir du porc.
D'accord. Ah, c'est pas du veau.
Non, c'est du porc, celle-là.
Alors, dites-moi. Alors, oui, non, Aurélien, pardon, petite désannonce du morceau qu'on écoute, ou
c'était
Christophe, quelqu'un?
Chanel Monáe, je sais pas comment on dit, avec un des membres de Outkast, un célèbre duo hip-hop. Et le gars s'appelle Big Boy. C'est un petit morceau sympathique.
Bon, cette saucisse, elle est de chez Monsieur Echevarne, toujours, ou pas?
Toujours. Boucher Conseil, que nous saluons bien bas.
Bah oui.
Parce qu'il fait quand même des bons produits.
Ouais.
Bon, allez chez votre boucher de quartier.
Mais il nous écoute pas, Monsieur Echevarne, qui est situé Grand Rue Ville-Nouvelle.
Oui,
alors bon, on le salue au passage. On sait qu'il nous écoute pas. Par contre, on sait qu'il y en a d'autres qui nous écoutent dans leur atelier de découpe.
Oui. Chez Arnaud. Chez Arnaud. Chez les Mourgues. À Puy-Cornet. Donc, le spécialiste, le grand maître du veau. Fermier du veau lourd.
Pierre, écoutez bien comment il gagne la tranche de steak supplémentaire de demain matin au marché.
Ah oui, vraiment, boss, c'est un régal, c'est un régal. Ils nous écoutent là, ils sont en train de découper pour demain matin le marché de Montauban, samedi matin. La meilleure viande du marché, un veau fermier.
Ouais, spéciale dédicace donc à Monsieur Mourgue, à toute son équipe, sa famille, son fiston, qui est un bon rugbyman. Oui, je ne sais pas qu'il m'en retourne une quand, mais il doit faire un peu trop la fête quand même. Il a toujours un peu l'œil jaune.
Samedi matin. Ils arrivent tôt au marché aussi.
Ouais. Mais moi je le soupçonne de pas se coucher des fois.
C'est pour ça. Tu penses? Est-ce que tu fais la fête, Stéphane?
Le fils, voilà, Stéphane Mourgue.
Et il nous donnera la réponse demain matin. Ah ben demain matin, en plus, pendant le marché, il va y avoir le match. C'est à 10h.
Il râlait la dernière fois.
Ah oui, oh là là. Oh là là, là y avait, bon. ça partait au baf. Hein.
Bon. Revenons à nos moutons. Alors, Pierre Boginot, qu'est-ce que vous êtes allé faire avec la confrérie des vins des coteaux du Quercy dans les plaines de l'Ukraine?
C'est-à-dire qu'il se trouve que le hasard de la vie fait que nous avons dans notre confrérie plusieurs membres, plusieurs personnes qui viennent de Russie. Nous avons une œnologue qui vient du Daghestan. Nous avons
le Daghestan, je ne savais même pas où c'est.
Oui, c'est-à-dire c'est près du Kazakhstan, là-bas, c'est très loin. Hein. Et ensuite, nous avons plusieurs personnes qui sont dans le vin en Russie. Et si vous voulez, tous ces gens-là, nous les avons connus par l'intermédiaire de la famille Ricard. Puisque la famille Ricard, nous avons plusieurs membres de cette famille prestigieuse qui sont membres de notre confrérie.
Ah d'accord, ça doit les changer.
Eh ben, disons que ça les change, mais de toute façon, ils sont très souvent avec nous. Et donc, si vous voulez, le voyage s'est décidé il y a maintenant 2 mois à l'île de Bendor, chez eux d'ailleurs, où nous avions nos amis russes qui nous ont dit, bon, on va avoir le 225e anniversaire de notre vignoble, c'est-à-dire leur vignoble qui se trouve là-bas, à nos amis russes, c'est 1200 hectares, et c'est le vignoble qui est le plus au nord de la Russie, c'est-à-dire c'est au-delà de cette ligne, on ne fait plus de vin. En sachant que l'hiver, ils sont obligés ils butent les pieds de vigne pour qu'ils ne gèlent pas.
Voyez. Tu vois, si tu m'énerves, je te bute.
C'est voilà,
quoi,
donc,
c'est quoi buter?
Buter, c'est, si vous voulez, c'est rapprocher la terre, couvrir les ceps avec la terre, comme on faisait ici avant, ici d'accord. Aussi, ça se passait.
T'as jamais buté les poireaux ni les pommes de terre, voilà, enfin, qu'est-ce que c'est?
Donc, pour éviter le gel. Donc, nous sommes invités là-bas, nous sommes partis. 10 membres de la confrérie, hein. Il y avait, par exemple, de Montauban, il y avait Daniel Marty, le docteur Bécade, il y avait Cabros de Mirabel, ensuite il y avait la famille Ricard qui était avec nous.
Vous êtes partis en toge bleue, là.
Nous sommes partis d'abord par Turkish Airlines, de Toulouse à Istanbul et d'Istanbul à Rostov-sur-le-Don. Et là, nous avions bien entendu amené nos tenues. nous avons un peu visité, hein, et puis nous avons fait quelque chose d'extraordinaire. Nous avons fait plus de 300 kilomètres vers la ville de Timiska, qui se trouve sur au bord du Don aussi, et nous avons fait 300 kilomètres de route russe avec des véhicules peut-être Mercedes. Mais les routes russes, c'est pas tout à fait les nôtres, vous voyez. Donc déjà, c'était les steppes du Caucase du Nord. C'est quelque chose de fantastique. C'est la plaine, c'est un autre monde.
Mais vous y alliez quoi pour dire, pour leur faire goûter votre vin?
Nous y sommes allés là-bas et nous avons amené, bien entendu, des vins du coteau du Quercy. Hein. Nous en aurions amené davantage, mais vous savez que les douanes, c'est pas toujours évident. Mais enfin, et puis le poids dans les valises.
Parce qu'au bout de trois, semi-remorques, ils ont commencé.
Combien vous en aviez amené?
On avait amené, je sais plus, plusieurs dizaines de bouteilles. Mais tout ça pose des problèmes de logistique pour nos bagages. Donc nous sommes arrivés là-bas. Et alors là, nous avons été reçus tout d'abord par les Cosaques, puisque là-bas, nous sommes dans un pays Cosaque, avec des groupes folkloriques, une nourriture et des repas fantastiques. Et à la suite de ça, nous avons été donc conviés à la journée qui nous était plus ou moins consacrée, au 225e anniversaire, où il y avait toutes les autorités russes du secteur, hein, et Dieu sait qu'il y en avait beaucoup.
Il y avait le tsar.
Et ensuite, non, le tsar, non, il n'était pas là, mais...
Et le pompe.
Et alors, par contre, si vous voulez, nous avons été reçus là... À cette cave coopérative, qui est une, enfin, c'est pas une cave coopérative, c'est une cave privée maintenant, hein. Il y a 1200 hectares.
C'est ça, c'est un truc énorme.
C'est un truc énorme.
C'est un ancien kolkhoze.
C'est un ancien kolkhoze, c'est un truc énorme. Et si vous voulez.
Bon, c'est du vin industriel, là.
La politique russe consiste à faire des vins rouges et des vins effervescents. Parce qu'il faut savoir qu'avant la Révolution, la Russie était un des premiers producteurs de vins au monde. On a fait tout arracher et maintenant on recommence à planter.
Parce que c'est ça, en Crimée.
Voilà. Parce que les Russes voudraient que, à la place de la vodka, on prenne des vins effervescents.
Qu'on arrête un peu de se mettre trop la tête.
Donc,
là-bas,
si vous voulez, nous avons été reçus d'une manière magnifique.
Et nous, quand on va commencer à faire vin rouge frappé, ça va être bizarre.
Ah, oui. Dans la mesure où nous sommes arrivés dans cette grande exploitation viticole, et il y avait des chapiteaux, il y avait tout un tas de choses, des groupes folkloriques, tout. Et nous, on a remis nos tenues, une fois nos tenues bleues et noires.
Ils ont dit,
les chapeaux, les plumes. Et nous sommes arrivés et nous avons bien entendu entonné le secanto. Alors je ne sais pas si l'air du secanto chez nous est le même que là-bas, mais enfin ils nous ont peut-être pas compris parce que là on parlait une autre langue, c'est-à-dire l'occitan. Et donc ils étaient tout à fait satisfaits. Ils nous ont répondu avec des chants cosaques. Nous avons passé une soirée fantastique. Hein. Nous avons visité cette cave, nous avons vu des choses. Par exemple, là-bas, il y a la fermentation du vin. La fermentation du vin ne se fait pas comme chez nous, elle se fait à l'air libre. C'est-à-dire que c'est une mode de vinification cosaque. Ce sont des grandes cuves de bois qui sont à l'air libre et on vinifie comme ça. Alors qu'ils ont aussi des cuves magnifiques en inox, comme tout le monde. C'est une super exploitation, vous voyez. Donc là, nous avons passé une super soirée avec des gaufres folkloriques et tout. Mais le lendemain, nous sommes repartis en bus.
Vous aviez bien
mal à la tête. Nous sommes revenus pour déguster les vins et déguster avec des produits locaux.
Des vodkas.
Et là, produit local que vous allez imaginer.
Voilà.
C'est-à-dire que les produits locaux, c'était au point de vue culinaire.
D'accord.
Mais
beaucoup
de caviar.
Du caviar.
Voilà. Puisque quand même, nous étions tout près de la Gaspienne. Hein, puisque la Gaspienne n'est pas très loin, le Kazakhstan non plus. Mais si vous voulez, alors en plus, il y a eu une anecdote terrible. Nous avons embarqué la nuit sur un bateau, sur un immense lac qui a été fait sur le Don, qui est presque une mer intérieure, la nuit, avec une voiture qui disait où était le bateau. Nous sommes partis là. Et là-dedans, ils avaient amené, bien sûr, les serveurs, parce qu'on mange tout le temps là-bas. Alors, ils avaient amené des serveurs, tout ce qu'il fallait. Mais si vous voulez, ce qui était un peu... Il y avait une accordéoniste. Hein, et sur ce bateau, comme dirait le docteur Beccade, je suis allé sur le Don et j'ai fait la chenille à 2h du matin. Vous voyez. Donc, nous avons passé des journées extraordinaires dans un monde tout à fait particulier, un endroit où personne ne va jamais. Ben, il se trouve que la confrérie des vins du Quercy y est allée et nous sommes contents d'y être allés et nous avons de bons rapports avec eux. Ils vont venir avec nous et il faut dire aussi
est-ce que
nous...
Est-ce que vous avez pensé, je vous coupe, pardon, mais à Don Camillo en Russie quand
vous
êtes...
Oui, si vous voulez, c'était pas tout à fait ça. Mais il faut savoir qu'à l'heure actuelle, les croix orthodoxes refleurissent partout, il y en a partout. Ils construisent des églises, tout ça. Et alors, si vous voulez, nous, en plus de ce que nous avons vécu là, il y avait, nous sommes passés hier matin sur Antenne 2 à William Lemerchy, qui a parlé justement de ses 225e anniversaire de ce qui était sur le, dans le Caucase. Voilà.
Hein, je vous coupe un petit peu parce on a un invité en ligne après avoir donné la parole au grand maître de la confrérie de la poule farcie. Nous accueillons eh bien le grand maître de la confrérie de l'andouillette au Layon. Alain Bastin, bonjour.
Oui, bonjour.
Merci d'être avec nous sur CFM pour nous parler de votre confrérie et de l'andouillette. C'est une spéciale confrérie qu'on fait ce soir, voilà.
Ah, mais c'est une très bonne chose, ça.
Alors,
on pense aux confréries, quand même.
Hein. Oui, alors, la confrérie, des confréries de l'andouillette, on disait, avec Pierre Bogineau, qui lui est grand maître de la confrérie des vins des Coteaux du Quercy, on disait, mais il y en a beaucoup des confréries de l'andouillette, et vous, c'est une confrérie de l'andouillette au Layon, hein, c'est ça.
Coteaux du Layon.
Ouais.
Il y a plusieurs confréries de l'andouillette en France. Nous sommes une confrérie gastronomique, qui défend la gastronomie angevine et les vins d'Anjou. Et l'andouillette au Layon, c'est une recette de cuisine qui a été créée par un restaurateur qui représente un petit peu cette gastronomie angevine qui est une gastronomie de recherche et qui essaye avec des produits du pays de faire quelque chose qui est très bon dans notre assiette. Alors, l'andouillette au Layon, nous avons essayé bien sûr plusieurs andouillettes et celle qui se marie le mieux avec le Coteau du Layon, c'est l'andouillette de Troyes. L'andouillette de Troyes, l'andouillette 5A, c'est-à-dire la classification supérieure, l'association amicale des amateurs d'andouillettes authentiques, c'est-à-dire c'est la meilleure des andouillettes.
La grande classe de l'andouillette.
Donc il faut préciser
la grande classe de l'andouillette. Alors c'est une andouillette qui a mariné pendant 48 heures dans du Coteau du Layon, et ensuite nous retirons cette andouillette, nous la faisons sécher, et avec le jus qui est donc du Coteau du Layon, on fait monter une crème, et puis ensuite cette crème, on rajoute encore du Coteau du Layon et on sert cette andouillette au Layon en assiette. Voilà.
L'andouillette, elle est chaude, froide, cuite.
Elle est chaude, elle est cuite. Hein.
Bah parce qu'avec le Coteau du Layon, on doit être cuit aussi, parce que bon, pour nos auditeurs qui ne connaissent pas le Coteau du Layon, c'est donc un vin doux relativement.
Un vin d'Anjou.
Hein?
Un vin d'Anjou.
Oui, c'est un vin d'Anjou.
Mais
doux.
C'est sucré, quoi. Hein,
c'est il y a une grande sucrosité dans le.
C'est un, exactement.
Voilà, une très grande sucrosité et un degré d'alcool qui n'est pas anodin.
Ouais.
Les Coteaux du Layon, c'est plus de 14 degrés quand même.
C'est ça. C'est une boisson d'homme.
Mais tiens, tu vois, tout à l'heure, j'ai mangé un petit chocolat là avec de la liqueur de cognac vieillie à l'intérieur. On pourrait imaginer un petit chocolat avec de l'andouillette au Layon à l'intérieur.
Alors, on la trouve où cette andouillette au Layon?
Alors, cette andouillette au Layon. Bon, bien sûr, nous faisons un chapitre solennel chaque année à Saint-Georges-sur-Loire, qui est à 15 km d'Angers. C'est une commune d'Anjou. Hein, et le jour de la confrérie de l'andouillette, nous mangeons cette andouillette au Layon, mais de plus en plus, maintenant, nous essayons, à chaque fois que nous avons des salons de la gastronomie, nous faisons des andouillettes au Layon sous vide, et l'on fait déguster aux gens, et si les gens sont intéressés, ils peuvent en acheter sous vide.
Il faut nous en envoyer un échantillon.
Ah, mais il n'y a pas de problème.
Il faut nous envoyer un échantillon.
On veut bien devenir ambassadeur de l'andouillette au Léon.
Et qu'est-ce que vous faites là-bas jeudi soir?
Cher grand maître.
Donc, un grand maître parle à un autre grand maître.
Étant le grand maître des Coteaux du Quercy, mais le hasard de la vie fait. Le hasard de la vie fait que je suis administrateur de la fondation Yolande de Kepper de l'AFM, qui est auprès d'Angers. Oui. Et je serai là, je dirais lundi soir, vous voyez. Donc, lundi soir, je serai près de vous, et j'espère peut-être déguster, peut-être pas de l'andouillette, mais peut-être que je ramènerai les Coteaux du Léon.
Ah oui, ça, il faut.
Ah, mais de toute façon, dans le Léon, on a des très bons vins et des très bons viticulteurs qui nous sortent des vins magnifiques.
C'est un vin extraordinaire,
ouais. Le Coteau du Léon. Vous voyez, je vais être appelé à venir, plusieurs fois par an dans votre région, vous voyez.
Eh ben voilà, peut-être un lien avec une autre.
Et peut-être qu'on pourra venir si les dates correspondent à votre chapitre.
C'est quand votre chapitre?
Alors, je peux déjà vous dire que notre chapitre a lieu le 12 mai, le samedi 12 mai, à Saint-Georges-sur-Loire, en 2012.
Répétez-moi, à quel endroit il se trouve?
Alors, Saint-Georges-sur-Loire.
Saint-Georges-sur-Loire.
15 kilomètres d'Angers. En direction de Nantes.
Mmh. Très bien. Vous êtes nombreux dans votre confrérie?
Alors, nous sommes 32 dignitaires et nous avons à peu près 500 chevaliers.
Bien.
Et nous avons deux bailliages, l'un en Aquitaine et l'autre en Lorraine. Et nous créons un troisième bailliage en Languedoc-Roussillon. Dès le 12 mai, on crée un troisième bailliage.
Des délégations régionales. Qui sont...
Ce sont des ambassadeurs.
Vous exportez.
Et qui vont pouvoir assister au chapitre de confrérie amis. Et donc parler de notre confrérie également et de nos produits.
Voilà, quant à notre chapitre, il a lieu le 29 avril... dans la bonne commune Castelnau-Montratier dans le Lot, puisque une année c'est dans le Tarn-et-Garonne et l'autre année c'est dans le Lot. Alors vous êtes bien sûr convié à venir si ça vous fait plaisir. C'est
eh bien écoutez, grand plaisir. Moi, je suis ravi. J'aimerais bien que vous nous envoyiez votre invitation. De toute façon, il y a plusieurs sites internet. Celui d'abord de la confrérie gastronomique Andouillette au Léon. Donc il suffit tout simplement sur internet, vous mettez Andouillette au Léon et vous tombez sur le site. Vous avez également le site de l'ambassade régionale des confréries des produits du terroir et du goût de la région du Pays de Loire, qui parle également de notre confrérie. J'en suis d'ailleurs même le président de cette ambassade. Et puis vous allez également, puisque cher ami, vous êtes le grand maître de confrérie, vous savez qu'il y a le COFRACO, le Conseil français des confréries, et au COFRACO, vous pouvez avoir nos coordonnées également.
Tout ça est bien noté.
Nous avons tout noté. Alain Bastin, merci d'avoir été avec nous pour évoquer sur CFM Radio la confrérie de l'Andouillette au Léon. Nous avons espéré, dans le cadre de l'émission Qu'est-ce qu'on déguste, finalement avoir créé une rencontre. Et puis on veut bien être l'ambassadeur. Vous nous envoyez un sous vide là.
Un échantillon. On va goûter ça.
Il n'y a aucun problème. Merci. Si vous voulez, envoyez vos coordonnées sur notre site internet, je pourrai vous adresser ce que vous me demandez.
Voilà. Ça sera fait.
On va faire ça. Oh, oui. Super, merci Alain Bastin. Allez, à bientôt.
Génial.
Et merci à vous. Hein. Au revoir.
Je crois qu'on a trouvé une mine.
Oui,
trouvé des produits numéro 1 sur la confrérie.
Vachement bon.
Et à l'œil.
Et là, vous avez trouvé le truc. Hein.
On va se gaver à l'œil.
Alors là, vous regardez toutes les confréries, il y en a plein qui ont plein de trucs. Hein.
On va faire un petit tour à la confrérie. Là, on va se gaver à l'œil, ça va être fait.
Depuis hier soir, on aurait pu monter la confrérie
des amateurs des pieds de cochon.
Ouais, des amateurs de la bouillabaisse aux pieds de cochon.
C'était vraiment bon.
Ah mais oui.
Non, c'est blague. Non,
mais non, mais c'était terrible.
C'était dégueulasse.
Mais non.
C'est gras.
Mais c'est étonnant parce que c'est vraiment. Il y a même de la rouille. Tu sais la rouille que tu mets dans la bouillabaisse ou dans la soupe de poisson. Il y a même cette rouille là que tu mets dans cette
bouillabaisse.
Il y a des pommes de terre, il y a tout comme dans la bouillabaisse.
L'origine de cette bouillabaisse, Thierry Boisse, donc le patron et le cuistot de la cantine de Proust, il a appris cette recette, il l'a trouvée sur la presqu'île de Giens. Merci, on se tait.
Oui, on se concentre sur
la chronique.
Pardon.
Sinon, on parle pas sur la chronique des autres. Bon, et j'ai 2 minutes 30, alors ne déconnez pas.
Plus que deux maintenant.
Voilà. Ouh. Donc, il a appris cette recette dans un restaurant tenu par une vieille mémé sur la presqu'île de Giens. Donc, la presqu'île de Giens, c'est en face de Porquerolles, dans ce coin-là, à côté entre Toulon et Saint-Tropez, yeah. Comme ça, hier. Et donc, il a ramené cette recette. Et il m'en avait parlé déjà plusieurs fois. Et j'ai dit, on va monter un grand banquet d'amateurs de pieds de cochon pour déguster cette fameuse bouillabaisse de pieds de cochon, donc qui est comme une bouillabaisse, donc avec un bouillon, avec du safran, avec de la tomate, avec tout ce qu'il faut, et au lieu d'avoir du poisson, des pieds de cochon, il y a des pommes de terre comme dans la bouillabaisse, il y a les croûtons de pain avec la rouille comme dans la bouillabaisse, mais il n'y a pas de poisson, c'est du pied de cochon. Vraiment, c'est à se taper le cul par terre.
C'était très bon.
Il y avait des absents qui, j'espère, le regrettent amèrement.
Il y avait
un absent.
Il y avait quelques filles qui ont demandé du poulet à la place des pieds de cochon.
Oui, parce que tout le monde a dit les pieds de cochon, c'est gras, c'est gélatineux, il n'y a rien à bouffer.
Pierre Mogino, est-ce que c'est gras le pied de cochon?
Non, le pied de cochon, ce n'est pas gras. C'est comme quand on vous dit que la couane, c'est gras. Non, c'est des problèmes de peau. C'est tout à fait comestible.
C'est du bon cholestérol.
Et je pense, oui, c'est d'avoir du bon cholestérol. Et puis, je crois qu'il faut sortir des sentiers battus. C'est pas la peine toujours de manger le steak grillé et les frites. Les pieds de cochon, je crois que c'est quelque chose qu'il faut remettre à l'honneur.
Il faut être aventurier et dans ce genre de truc.
Et donc, c'était très bien. Donc, super dédicace à Thierry Boisse, à qui vous pouvez demander. Il est jamais ouvert le soir. Mais vous pouvez lui demander à la cantine de Proust de si vous êtes comme nous. On était un petit groupe de 20. Vous lui demandez.
Là, il ouvre le soir pour vous 15 personnes.
Ça a vachement plu à tout le monde, y compris à Gilbert de Fronton, qui nous a du coup ramené au studio aujourd'hui.
Un kilo de chocolat
parce qu'il a passé une bonne soirée. Merci Gilbert. En plus c'est pas rien comme chocolat, c'est de la chocolaterie de Lara, typiquement et intégralement artisanale, c'est ce qui est écrit dessus. Et puis moi j'arrête pas d'en manger, c'est hyper bon.
CFM. Qu'est-ce qu'on déguste avec Vinovali, cave de Técou et des vignerons de Rabastens. Vinovali, les vignerons d'Ovalie.
Qu'est-ce qu'on déguste? La suite. Qu'est-ce qu'on déguste? C'est tout le temps. C'est pendant les infos, c'est pendant la musique, c'est pendant les pauses pub, c'est tout le temps qu'on discute.
Mais parce qu'on est des passionnés, on aime ça.
De ce qu'on peut manger, de où est-ce qu'on peut manger, de qu'est-ce qu'on peut boire, de où est-ce qu'on peut le boire, d'avec quoi il faut le manger ou avec quoi il faut le boire.
Qu'est-ce qu'on déguste.
Vous êtes sur la bonne émission, au bon endroit, au bon moment. Qu'est-ce qu'on déguste sur CFM Radio? Pascal Olivier,
présent.
Toujours là. Christophe Bory.
Mais
toujours
oui,
là. Georges Bonfils excusé parce que quelque part au boulot, Gaël également, Fabien également. Fabien est excusé.
Oui,
et notre invité ce soir, Pierre Bogino, grand maître de la confrérie des vins des Coteaux du Quercy. J'ai eu l'honneur d'être intronisé moi-même en 2008 dans la confrérie.
T'as été introduit?
Intronisé dans la confrérie des vins des Coteaux du Quercy. Je devais l'être le même jour que c'est lundi. Dick Rivers, parce que Dick Rivers habite dans le coin, figure-toi. Et moi, je me faisais une joie d'être dans la même, comment on dit,
dans la même promotion,
d'être le même impétrant que Dick Rivers. Et j'attendais fébrilement de voir arriver Dick avec son pantalon en cuir, son blue jean. Il n'est jamais arrivé. Mais c'était quand même une belle promotion, en tout cas une belle fête. Ça s'est passé à Montpezat de Quercy, sur la place du village. Un soir de grande fête des vins des Coteaux du Quercy, et c'était
fête des Coteaux du Quercy, oui, qui voilà, est
chaque année,
alors j'ai fin juillet début août,
j'ai eu une belle médaille, une très grosse médaille là, avec un diplôme qui a été pendant très longtemps encadré de vignes d'or affichées dans mon bureau, vois-tu.
Et tu ne l'as plus.
Mais si je l'ai, mais tu pour le moment, comme je suis en transit, il
salopard,
est quelque part.
Tu
dans
l'as
un...
foutu au clou.
Non, il est quelque part dans un dans un carton. Mais voilà, ça, moi, ça m'a bien fait plaisir d'être de faire partie de ces mille comment on dit.
C'est-à-dire.
Comment on dit, Pierre?
Les compagnons de Vanu Garcia.
Voilà, de faire partie des mille compagnons de Vanu Garcia.
En sachant que la millième, c'est Michel Ricard, qui est une des filles de Paul Ricard.
D'accord, voilà. Mais je sais, voilà, je crois qu'il y a Benabar, je crois qu'il y a Renan Luce, il y a beaucoup de
chanteurs. Il y a Jane Manson.
Oui.
Il y a Patrice de Carolis.
Oui.
Il y a quelques ministres.
Et il y a moi,
il y a le chef de cuisine de l'Elysée, vous voyez. La confrérie des vins de Quercy n'hésite rien.
Et alors, comment vous choisissez les nouveaux impétrants?
On jure de faire la promotion et d'être fidèle aux vins des coteaux de Quercy.
Bon, toi, tu bois du Fronton de temps en temps, hein.
Ouais, mais...
Oh, le oui, salopard.
Le Fronton, c'est quand même vin du Tarn-et-Garonne, on peut être satisfait.
Mais il boit tout. La vodka jet, tu crois que c'est du Tarn-et-Garonne?
Ça, c'est autre chose.
Comme
nous avons beaucoup d'amis russes, même s'ils boivent de la vodka, on peut le comprendre.
Alors, comment vous choisissez les nouveaux compagnons?
Alors, c'est-à-dire que, en fait, ne choisit pas. C'est-à-dire que nous sommes des gens qui, chaque personne qui souhaite être intronisée peut l'être, hein, déjà. Et puis après, nous avons les amitiés des uns et des autres qui font que il y a des personnes qui nous demandent d'être intronisées. Et puis il y a d'autres où nous provoquons, on leur dit, est-ce que nous serions très heureux que tu sois intronisé? Et donc voilà comment les choses se sont faites. Vous savez, on a, par exemple, le président des écrivains français, vous voyez, c'est le hasard qui a fait qu'il soit là. Et nous avons aussi le président de la société de la Tour Eiffel, où nous pensons peut-être prochainement aller faire peut-être un chapitre à la Tour Eiffel. Nous sommes allés déjà à Chantilly chez notre ami qui est ici, qui est
chez Mousse.
Hein?
Mousse.
Nous sommes allés à Chantilly au château Latour. Château Latour, dont le propriétaire est un Tarn-et-Garonnais. Vous voyez, où on a intronisé plusieurs personnes, des gens, je dirais, relativement importants, dont le patron du marché de Rungis, vous voyez. C'est-à-dire que, on se déplace, nous, c'est par amitié, c'est par convivialité, c'est pour que les vins de Quercy soient connus.
Pierre Beugino, comment vous faites pour garder la ligne?
C'est-à-dire que, il y a quelques années de ça, avant que je sois grand maître, j'avais un poids, disons, supérieur à celui que j'ai à l'heure actuelle. Mais si vous voulez, petit à petit, vous savez, l'âge venant, eh bien, il est normal de diminuer le poids, parce que si on diminue le poids, peut-être on gagne des années en diminuant le poids.
Oula.
Alors là, les verres sont vides, c'est pas normal.
Il n'y a plus rien.
Donc le temps que tu ailles ouvrir une bouteille, si tu veux bien, Pascal. Alors, on aura plus de vins. On a des vins du coin, de toute manière. On en a dans la cave.
Votre gadget, pour
on va se tourner vers Christophe.
Ah, un gros bouquin ce soir et une rude tâche pour moi. Vous parlez en deux minutes d'Edgar Allan Poe. En effet, je viens de finir une biographie de cet illustre poète, romancier, nouvelliste, critique littéraire, dramaturge, éditeur américain. Edgar est né en 1809. Il est reconnu pour être l'inventeur du roman policier. Et c'est aussi grâce à lui que les nouvelles, donc ces récits fictifs de longueur moyenne, se sont développées. Il est connu aussi pour avoir été traduit par, excusez du peu quand même, Charles Baudelaire. Il est un maître de la noirceur et du fantastique. Parmi ses œuvres innombrables, les aventures d'Arthur Gordon Pym, la chute de la maison Usher, qui a été adaptée de nombreuses fois au cinéma, Double assassinat de la rue Morgue, qui est considéré comme un des premiers romans policiers,
tout à fait.
Le cœur révélateur et le poète. Le poème Le Corbeau en 1845. Si son œuvre est plutôt sombre, eh bien sa vie ne l'est pas moins. Vous apprendrez dans cette enquête signée George Walter la vie tumultueuse de Poe. Il a perdu ses parents très tôt, il a été recueilli à l'âge de 2 ans par un riche négociant, des histoires d'amour incroyables, sa jeune femme morte, l'alcoolisme, une non-reconnaissance dramatique de ses pères américains, il n'a pas du tout été reconnu de son vivant, et tout ça pour finir par mourir en plein délirium tremens, en bref, une vraie vie pour devenir une légende.
Il ne faut pas oublier qu'en France, il a été connu relativement tôt. Par qui? Par Charles Baudelaire, voilà. qui a été le traducteur de ces histoires extraordinaires et des nouvelles histoires extraordinaires. Et c'est Baudelaire qui, dans sa traduction, a fait connaître Edgar Allan Poe au public français.
Moi, j'ai lu Poe uniquement grâce aux traductions de Baudelaire.
En bref, si Edgar n'a pas été apprécié à sa juste valeur à l'époque, ce n'est pas pareil aujourd'hui. Il est adulé et connu de tous, et c'est mérité. Son écriture est moderne et les genres variés, du policier aux histoires fantastiques, en passant par des nouvelles plus légères. Cet homme était vraiment ce qu'on appelle un génie. Et comme l'écrit Walter dans cette biographie, ses livres lui ont rapporté $300. L'avenir n'arrête pas de lui verser le solde. C'est 600 pages d'enquête, c'est vraiment intéressant. Edgar Allan Poe, c'est un livre de George Walter, c'est édité chez Phoebus Libretto.
Très bien.
Il faut que je lise un truc, parce qu'il y avait une petite page.
Si tu as trouvé une page intéressante.
Oui. Sur les 600. Il y avait une...
Avec une marque-page.
Il y avait un marque-page.
C'est là où l'année était, en fait.
Je prends le marque-page. New York, avril 1989. One Man Poe. Au bar du Gramercy, quand il ne reste plus sur les tabourets du comptoir que deux ou trois insomniaques, et dans la caverne enfumée, le client au cigare, vieillard farouche qui n'est autre que l'homme des foules, rien n'empêche l'enquêteur, au fond d'un fauteuil, d'être seul, avec la voix d'Edgar Poe. Personne, dans cette pénombre, pas plus que dans la rue, ne va prêter la moindre attention à qui boit un cognac, un Walkman sur la tête, pour écouter la conférence du maître. Sa voix métallique est scandée. Un instant, il se demande si quelqu'un ne va pas reconnaître, face à lui, devant l'autre cognac, Norman George, à vrai dire, la ressemblance avec Edgar Poe et Norman George n'est pas frappante et n'apparaît que sur la scène, à la lumière du gaz, quand ces mots sont les mots du poète. Du reste, ressemblerait-il à Edgar quand un jumeau que personne dans une rue de New York ne l'accosterait pour lui demander « N'êtes-vous pas Monsieur Poe ?» Il y a des années pourtant que cet ancien journaliste, acteur ascétique, d'un seul rôle, n'entend incarner d'autres personnages que celui-là. Et qu'il porte sur la côte est des États-Unis, de Richmond à Boston, ce one-man show qui s'intitula Allan Poe.
Oui, car George Walter s'est déplacé aux États-Unis. C'est vraiment une enquête, donc c'est
complet. George Walter, c'est pas un Américain.
Oh, alors là, tu
non, mais je sais pas, George Walter, tu dis il s'est déplacé. Enfin, non,
il a sillonné les villes fréquentées par Edgar Poe, et c'est vraiment une enquête profonde sur les traces d'Edgar Poe.
Terrible.
Alors, nous accueillons maintenant au téléphone Philippe Jouvin. Alors, pour que Philippe Jouvin, grand maître de la confrérie du petit vin blanc de Nogent, sache où il se trouve, je vais réexpliquer que nous sommes en direct sur CFM Radio dans l'émission Qu'est-ce qu'on déguste ? C'est une émission qui a lieu tous les vendredis soirs, dans laquelle eh bien, nous mettons en avant à la fois les producteurs, les produits régionaux et tout ce qui peut être
initiative locale.
Tout ce qui peut être bon à manger, mais aussi à lire, à écouter, à sentir, à tout ce qui peut nous rassembler, nous faire asseoir autour d'une table l'espace de quelques temps. Avec nous ce soir en studio, Pierre Bogineau, grand maître de la confrérie des vins des Coteaux du Quercy, et au téléphone donc Philippe Jouvin. Philippe Jouvin, bonjour.
Bonsoir.
Merci d'être avec nous pour évoquer depuis
Nogent
la confrérie du petit vin blanc.
Absolument.
Alors s'il vous plaît, on va vous faire un petit hommage. Un, trois, quatre.
Un petit vin blanc.
Tut tut.
Qu'on boit sous les tonnelles. Quand les filles sont belles, du côté de Nogent.
Bon, c'est votre hymne.
Vous avez tout compris, je crois. Que vous dire de notre confrérie ? D'abord, merci de penser à une confrérie d'Île-de-France, parce que c'est pas si courant, alors que le renouveau du vignoble francilien est en cours, vous le savez sûrement. Et en ce qui concerne Nogent, bien Nogent était connu par cette chanson que vous venez de vaillamment chanter, mais c'était un patrimoine abstrait, comme on est tenté de le dire. Cette chanson, c'est Jean-André Jacques qui l'a écrite en 1943 sur un coin de table, et en fait, cette chanson fait le tour du monde et était donc un hommage à Nogent en ce qui concernait son vin blanc. Son vin blanc qui n'existait plus,
ouais.
Parce qu'il n'y avait plus de vigne à Nogent. Et puis, il s'avère qu'il y a une douzaine d'années, un groupe de Nogentais plus ou moins jeunes, plus ou moins investis dans la vie associative, s'est retrouvé et a eu l'idée d'essayer de replanter un vignoble à Nogent.
Mais il y avait
de la
place.
Alors, ça n'a pas été une affaire très facile, parce que les réserves foncières en Île-de-France, vous le savez, sont extrêmement rares et difficiles et chères. mais nous avons pu néanmoins avoir une convention avec une maison de retraite nogentaise qui s'appelle la Maison des Artistes. Vous voyez que le nom est bien porté.
Oula, la Maison des Artistes.
La Maison Nationale des Artistes, qui est une maison de retraite dans laquelle une soixantaine de personnes âgées viennent finir leur jour, malheureusement pour beaucoup.
Ils ont accepté de réduire l'espace de leur chambre pour vous faire une place pour les vignes.
Ils ont accepté de réduire les 9 hectares de terrain en plein centre de Nogent et qui font baver tous les promoteurs de France et d'ailleurs. Mais ce terrain est inconstructible puisqu'il est le résultat d'un legs d'une artiste à cette fondation des arts graphiques. Et on a donc pu, par une convention et avec beaucoup de persuasion, disposer d'un bout de terrain pour y planter un vignoble.
Alors, combien vous avez mis d'hectares là?
Et quel cépage?
Alors, on n'a pas mis ça en hectares parce qu'on aurait pris la totalité du terrain. On a mis 350 pieds, ce que on considère quand même comme un petit exploit compte tenu du foncier local. Et on a donc mis 350 pieds.
Ça fait cher le pied, oui, du coup. Hein.
Alors, ça fait cher le pied si ça devait être au prix du terrain à construire, ce qui n'est pas le cas. Donc, on a mis 350 pieds de chardonnay, principalement, et puis on a quelques pieds de pinot d'Alsace, parce que ces pieds nous ont été offerts par une association locale qui a voulu marquer un peu son territoire. Donc on a quelques pieds de pinot.
Et avec ça, vous faites votre vin blanc de nos gens.
Et avec ça, on fait le vin blanc de la confrérie du petit vin blanc de nos gens, qui est un vin qui, comme vous le savez, dans le cadre de nos associations, est réservé aux fêtes et aux activités de la confrérie. Alors notre chapitre annuel le 20 novembre, si vous voulez venir vous y joindre, on vous y accueillera avec plaisir.
Ah, c'est bientôt.
C'est bientôt, oui. Et puis les fêtes de la confrérie, le pique-nique annuel, on donne à tous nos adhérents une bouteille chaque année, et on a donc une association qui vit joyeusement, qui est parrainée par diverses personnalités. On a eu comme parrain de la cuvée 2009 Laurent Voulzy, on a eu Marcel Hamon en 2010, et on devait avoir, mais malheureusement son emploi du temps cette année ne nous permet pas, on devait avoir Annie Cordy cette année. Pourquoi Annie Cordy? Parce qu'Annie Cordy a été reine de la fête du petit vin blanc, et vous n'ignorez pas cette fête qui a défrayé la chronique pendant des années, et qui a accueilli à sa dernière version près de 500 000 personnes dans nos gens. Mais malheureusement, cette fête n'existe plus pour un certain nombre de raisons. Et Annie Cordy a été reine de la fête du petit vin blanc il y a 50 ans. Et donc, on devait l'avoir comme marraine, mais malheureusement, elle est un peu plus près de chez vous que de chez nous, puisqu'elle est à Valence pour la tournée achetant des têtes de bois le 20 novembre.
Eh ben, on l'aura chez nous, alors, du coup. Dites-moi, Philippe Jouvin,
oui.
Vous, au tout début,
oui.
Qu'est-ce qui vous a poussé à faire cette confrérie? C'est quoi? C'est la convivialité? C'est quoi?
Oui, si vous voulez, on s'est retrouvé, je vous le disais, une bande de gens dont certains se connaissaient et d'autres pas. Et puis qui a trouvé le projet en fait sympa de redonner vie à
ce
terroir local.
C'est pour boire des coups.
Alors ça a été aussi en se disant que un jour on allait bien finir par faire un peu de vin et que ça serait une occasion de se retrouver. Enfin je vous savais ce que sont
ce fameux vin blanc de nos gens. C'est vous qui le vinifiez de A à Z
fait
ou
tout, cher ami.
C'est une piquette ou il est bon?
Alors, on est bien évidemment, comme tout viticulteur vous le dirait, tributaire d'une météo qui chaque année est un peu variable, hein. Et l'Île-de-France a une météo pas particulière, mais qui n'est quand même pas dans les plus favorisés par rapport au midi dans lequel vous êtes.
Oui, oui, oui.
Donc on a des variétés, on va dire, mais on fait un vin blanc qui est tout à fait consommable et buvable. Qui est un vin blanc sec, qui n'est pas un vin de garde, évidemment, mais qu'on arrive quand même à conserver.
Il est bio?
Alors, il est bio parce qu'on ne met que très peu, pour pas dire pas, de pesticides et de produits divers et variés.
Peu ou pas? Attention!
Non, on n'en met pas. On met le minimum syndical obligatoire pour finir par avoir du raisin.
Bon, enfin, ça, l'agriculture raisonnée, c'est une connerie. Ça, c'est un concept fait par les vendeurs de produits chimiques.
Tu comprends bien.
On en met ou on n'en met pas?
Eh ben, on en met très peu.
Ah ben, vous seriez pas un peu breton,
Philippe,
là-bas
Philippe,
non, pas du tout, pas du tout, moi. Non, moi, je vais vous dire, je suis un vrai titi parisien, je suis né sur la butte Montmartre.
Ça s'entend, l'accent, hein, mon gars.
Ben, peut-être. Philippe Jouvin. Je n'ai pas quitté l'Île-de-France depuis plusieurs générations.
Philippe Jouvin, j'improvise une séquence, parce qu'il nous reste à peine une petite minute pour cette conversation, j'improvise une séquence quand un grand maître rencontre un autre grand maître.
Qu'est-ce qu'il se raconte?
Je vous présente donc... Pierre Boginot, grand maître de la confrérie des vins des coteaux du Quercy.
Oui.
Ben, c'est-à-dire, moi, je suis très content d'abord de vous entendre. Je suis très content de voir que vous portez le vin blanc, ce vin blanc qui, même si c'est une petite production, c'est vraiment un problème de terroir. Et je crois que le petit vin blanc de nos gens, ben, je crois que c'est, moi, je ne peux que vous féliciter d'avoir fait cette chose-là. Et eh ben, si un jour vous voulez venir dans notre chapitre, qui aura lieu le 29 avril, on est très heureux de vous recevoir dans le Quercy.
Mais il
est
bien évident que... Je ne vous dis pas non.
Voilà.
Je ne vous dis pas non. Et chaque année, la confrérie fait un voyage dans une région de France différente.
Mais vous voyez, en Tarn-et-Garonne.
Je crois que l'année prochaine, le 29 avril, vous venez dans le Tarn-et-Garonne.
Bon, et nous,
il y aura Radio SAFM qui fera encore une fois votre promotion. Et
ben,
je crois que
pas.
C'est parfait. Vous pouvez venir chez nous avec grand plaisir.
On le goûte très bien quand même, ce petit.
Voilà, vous voyez, il va le goûter, le petit vin blanc.
Il y a pas une qui,
pour vous savez, c'est... Enfin, les bouteilles vides dans la circonstance.
Vous savez, le Quercy, ce sont des joyeux lurons, comme vous pouvez vous en apercevoir. Donc, si vous voulez, le Quercy, eh ben, le Quercy, c'est un grand terroir occitan. Donc, vous pouvez venir nous voir avec grand plaisir.
Vous faites partie des gens qu'on envie bien souvent par leur soleil, leur art de vivre, qui nous laisse bien des envies.
Et merci beaucoup Philippe Jouvin, grand maître de la confrérie du petit vin blanc de nos gens, d'avoir été avec nous sur CFM Radio. À bientôt. Merci.
Et moi, merci mille fois. À bientôt.
Eh ben tu vois, voilà, j'aime bien ces rencontres.
Ah
là,
oui, c'est parfait.
C'est agréable.
Hein,
il faut le faire venir à votre chapitre,
oui,
Pierre.
On verra ça. Et alors, par contre, je sais qu'il y a le vin de Suresne. Le vin de Suresne, ils ont un hectare de vigne à Suresne.
C'est
à côté du Mont Valérien.
Porte de Paris.
Ça vaut une fortune, un hectare de vigne là-bas. Et leur vin, ils font un vin correct. Il y a le vin de Clamart. Alors le vin de Clamart, alors là, ils ont des tenues, un truc.
Ah oui, non, mais parlons des tenues. Parce que j'ai vu sur Internet, on a discuté avec la confrérie de l'Andouillette tout à l'heure. Leurs tenues ressemblent assez à la vôtre, en fait. Elles sont assez proches, les tenues. On dirait un peu les tenues des
trois mousquetaires. Des trois mousquetaires. Voilà, d'Artagnan avec des plumes.
Donc médiéval, la confrérie de l'Andouillette, elles sont vertes. Les vôtres sont bleues.
Oui. La plupart des confréries de vin sont rouges.
Et celle du petit vin blanc de nos gens, je suis en train de chercher sur Internet parce que je ne l'ai pas vu encore.
Mais si tu veux, après il y a la confrérie de Clamart. La confrérie de Clamart, ils ont fait un vin à partir des treilles parce qu'il n'y a pas de vigne à Clamart.
Mm-hmm. Ah, ils sont rouges, regarde, ils sont rouges et jaunes pour les filles. Hein, ouais. Voilà. Il y en a même des bleus. Un petit
alors, tu sais que normalement, ils aiment beaucoup les plumes.
Regarde, confrérie des vins de Clamart.
Et la confrérie des amateurs des coco-fesses, en fait, leur
Il y a la confrérie des chauves.
Ah voilà, ben, je peux en faire partie.
Et vous savez que...
La confrérie... Non, attention, je veux finir, parce que la confrérie des amateurs des coco-fesses, en fait, ils sont à poil avec une plume dans le cul.
Oh, bravo.
Oh, mais là...
Et alors, est-ce que tu connais la Cocorico? Est-ce que vous connaissez la Cocorico?
Ah, ça, je connais pas.
La Cocorico, c'est... Alors, je sais plus où je l'ai vu, mais c'est très important et vous devriez connaître, mon cher...
Cocorico, on va peut-être le faire demain matin, parce que demain matin, il y a un match quand même...
Non, la Cocorico... Attends, oui, alors on va en parler, mais la Cocorico,
oui,
c'est le comité de coordination région Île-de-France des confréries. La Cocorico.
La Cocorico.
C'est bon. Ah, je me dis quand même que il y en a certains dans les confréries, ils mériteraient d'être à l'académie. Hein.
Ils sont peut-être à l'académie.
Il y a l'académie des confréries.
Il nous reste 3 minutes.
Terrine de poireau et queue de bœuf aux herbes. Qu'est-ce qu'on fait? On prend une queue de bœuf, un pied de veau, 5 poireaux, 2 oignons, une botte de ciboulette, 2 carottes, un bouquet de cerfeuil, un bouquet garni, 2 litres de bouillon, sel, poivre du moulin. On pèle et on coupe en 4 les oignons et les carottes. On plonge la queue de bœuf dans la marmite avec le bouillon, les carottes, les oignons, le bouquet garni, le pied de veau coupé en 2. Vous le demandez à votre boucher, on sale et on poivre, on fait cuire 4 heures. On sort la queue de bœuf, ensuite on met ses poireaux.
4 heures ?
Oui, il faut que ça cuise. Ensuite, on coupe les poireaux à la longueur, on les met dans le bouillon, on les fait infuser pendant une dizaine de minutes, on sort tout ça. Et ensuite, dans une terrine, on met une couche de poireaux, une couche de queue de bœuf que l'on a dépiauté, on a enlevé les os. Et on remplit jusqu'en haut, on verse le jus que l'on a clarifié au blanc d'œuf. Je vous expliquerai la semaine prochaine comment qu'on fait. On met ça au réfrigérateur pendant 24 heures et ça se mange froid avec une vinaigrette bien relevée. C'est hyper bon.
Vous l'avez...
Les poireaux, c'est le symbole, c'est le blason de la, des Gallois. Et demain, je pense qu'on va leur foutre.
Bien passé.
Ouais.
Évidemment, vous n'avez pas eu le temps de noter.
Voilà. Mais non, mais vous aurez ça en ligne.
Parce que je connais des gens qui sont vraiment intéressés par tes recettes, mais c'est impossible, ils ne peuvent pas suivre.
Ouais, j'ai toujours imaginé. On me cale toujours lorsqu'on n'a plus rien à dire.
Il faut
alors
mettre
il faut
sur Internet, je sais pas.
Donc la recette sera en ligne sur le site.
Qu'est-ce qu'on déguste.com ou CFM Radio.
Cochon qui s'en dédie.
Mm-hmm.
Pied de cochon.
Voilà, on arrive au terme de cette émission. Pierre Boginot, traditionnellement, à la fin de l'émission, on donne des idées de sorties pour le week-end ou pour les semaines à venir. À vous.
Ben, c'est-à-dire les sorties pour le week-end. Vous savez que à l'heure actuelle, nous rentrons dans une période de chasse. Je pense que les chasseurs seront de sortie. Et puis, je crois aussi qu'il y a de nombreuses manifestations, je dirais, dans le Tarn-et-Garonne. Et que ces manifestations, je crois qu'on se doit de les honorer. Parce que
tu as un repas de chasseur auquel tu penses là.
Non, non, pas encore le repas de chasseur, mais ça va venir. Mais
sinon,
je crois que nous le repas de chasseur à Montpezat-de-Quercy, puisqu'il se trouve que je suis le président de la société depuis bientôt 45 ans, le repas de chasseur, mais c'est 4 sangliers rôtis à la broche, vous voyez donc.
Et c'est quand?
Ça se passe au mois de février, je crois le 27 février. Et je crois qu'à ce moment-là, vous pouvez
venir
vous inscrire. Vous écrivez sanglier à la broche, je dirais à volonté, donc vous pouvez venir.
Oui, ce soir au Rio, il y a un concert dans le cadre de la semaine de l'étudiant gratos et les Meltons, c'est du bon son pop rock.
Avec les 5 opéras également.
Oui. Demain soir, moi je fais une infidélité au Coteau du Quercy, parce que de toute façon j'en suis pas membre, donc je vais Brulois, repart des premières vendanges à Haussé, les vignerons de Brulois qui fêtent le samedi 15 octobre les premières vendanges à Haussé avec un repas. À Cap de Donzac.
Voilà, et puis moi j'irai faire un tour pour changer à Castres, au Bollé-Gasson, où il y a autant de blues, hein, au festival autant
plein de
blues.
Plein de trucs au Bollé-Gasson.
Voilà. Bon week-end, à la semaine prochaine.
Salut à tous.
Merci Aurélien pour la technique.
C'était Qu'est-ce qu'on déguste avec Vinovali, union des caves de Fronton, de Teco, des Côtes d'Olt et des vignerons de Rabastens. Vinovali, les vignerons de Vali.